RFI, la France à midi.
Nous parlions il y a un instant des élections européennes, de la participation qui s'annonce plus importante que d'habitude. Et la campagne électorale, elle, se déroule dans un climat très polarisé avec des actions parfois violentes. La tendance, en fait, est à la hausse. Depuis quelques années, le Centre de recherche sur l'extrémisme de l'Université d'Oslo pointe même dans un rapport que la France est l'un des rares pays d'Europe occidentale où la violence d'extrême droite augmente. Pour en parler, nous recevons le sociologue Erwan Lecoeur, chercheur associé au laboratoire Pacte de l'Université de Grenoble-Alpes. Bonjour.
Bonjour.
Comment s'expriment ces violences de l'extrême droite? De quelle violence parle-t-on en fait?
Alors, on parle principalement de deux types de violences. Les unes s'exercent à l'endroit de gens qui sont des migrants, des personnes apparemment d'origine étrangère. Ça, ce sont les violences qu'on va appeler spontanées, des gens qui agressent dans les rues, dans différents endroits, des étrangers ou des gens supposés être étrangers ou immigrés ou migrants. Ça, c'est la première forme qui est en hausse relativement, mais celle qui est beaucoup plus en hausse encore, c'est celle de groupes, groupuscules d'extrême droite en général, qui vont agresser ou attaquer des lieux ou des personnes qui sont militants, militants antifascistes, militants de gauche, militants écologistes, militants féministes. Et il y a là, donc vous l'avez dit, une polarisation extrêmement forte, en France particulièrement, depuis quelques années, autour de ces questions de militantisme et où des militants d'extrême droite organisés, bien que dissous, très souvent, on sait que Génération Identitaire a été dissous, se recomposent sous des formes diverses et variées et vont, à certains endroits, aller attaquer directement, je le disais, des lieux, des librairies, des bars ou des personnes dans la rue.
Est-ce qu'on a une idée de l'ampleur de ce que représentent ces violences organisées qui sont le fait de militants politiques dont vous nous parlez?
Oui, d'abord, on a une recrudescence du nombre de meurtres. Il y a eu des gens qui sont morts ces dernières années, donc pour des faits liés à des faits de racisme. On se souvient à Paris notamment un monsieur qui a tué plusieurs Kurdes dans la rue. On se souvient d'un rugbyman d'origine étrangère qui avait joué en France, qui a été tué à la sortie d'un bar par un militant d'extrême droite. Donc il y a des meurtres, clairement, ces dernières années. Et puis il y a aussi une recrudescence de l'ordre d'environ 50% d'après les services de sécurité, en 2 ou 3 ans, ces dernières années, du nombre d'attaques diversement organisées, préparées à l'endroit et contre des militants, donc qui peuvent être anarchistes, qui peuvent être ou des militants écologistes, des militants féministes. Et donc on voit par exemple dans une ville comme Lyon une recrudescence dans certains quartiers de ces faits. On a vu aussi avec l'affaire de Crépol, par exemple, qui a défrayé la chronique en France suite à un meurtre lors d'une soirée, un bal dans un village près de Valence, la ville de Valence. Eh bien, il y a eu ce qu'on pourrait appeler une opération menée au niveau national avec une petite centaine de militants qui se sont retrouvés sur place pour une opération punitive. Et ça, c'est de plus en plus fréquent. Les réseaux sociaux permettent de se rassembler à quelques dizaines pour des opérations punitives dans des petites villes ou des grandes villes, selon les cas.
Alors vous nous le dites, ces violences sont le fait de groupuscules, de militants politiques. Comment est-ce que les partis politiques d'extrême droite, eux, réagissent à ce phénomène et à cette augmentation des violences?
Alors en général, ils préfèrent ne pas trop réagir. Par exemple, le Rassemblement national, ex-Front national, a longtemps été, je dirais presque, un élément stabilisateur presque, parce qu'il avait lui-même un service d'ordre qui organisait les mouvements, les groupuscules d'extrême droite et les empêcher d'aller faire le coup de poing pour ne pas, je dirais, nuire à l'image de cette extrême droite Front National avec Jean-Marie Le Pen à la tête d'un service d'ordre conséquent. Depuis les années 2010 à peu près, depuis même les années 2000, la première rupture, les identitaires se sont réorganisés en dehors du Front National et ont regagné une sorte d'autonomie. Et on les a vus notamment, il y a eu deux dates un peu marquantes en France, les années 2013-2014 avec la manif pour tous contre le mariage pour tous, où les cathos traditionalistes et les néo-païens identitaires se sont retrouvés dans la rue et à plusieurs milliers ont recomposé une sorte d'extrême droite qui prenait la rue. Ça a été le premier moment des années 2013. Et puis on a eu la campagne de M. Zemmour en 2021-22, où on a vu ces groupuscules, notamment les Zouaves à Paris et quelques autres, le GUD qui s'est un peu recomposé, des groupuscules plus violents, qui sont venus appuyer la campagne de M. Zemmour. Et donc là, c'est vrai que le parti Reconquête, lui, a dans son orbite directe ces groupuscules identitaires Et on peut dire que ces deux moments, 2013 et 2022, ont été des moments où ces groupes ont repris l'ascendant et se sont dit que quelque chose, pour eux, était possible dans les rues. Il fallait reconquérir les rues contre l'extrême gauche, notamment.
Vous nous avez parlé du rôle des réseaux sociaux qui permet une organisation très rapide. Les discours d'extrême droite sont beaucoup plus présents dans les médias qu'il y a quelques années. Est-ce que ça joue aussi un rôle, selon vous ?
Oui, et de deux façons. D'abord, je le disais, le discours d'extrême droite, par exemple de M. Zemmour, hein, dans les médias Bolloré, donc de M. Bolloré, ont eu une influence notable. C'est-à-dire qu'il y a une banalisation, ce qu'on appelle l'ouverture d'une fenêtre d'Overton, une banalisation, une normalisation de discours extrêmement agressifs, de thématiques aussi, hein, telles que la thématique du grand remplacement ou d'autres thématiques hein, de colonisation inversée. Et donc, ces groupuscules reprennent ces thématiques et vont s'en servir pour justifier leurs actions. Ça, c'est une première chose. Et il est vrai que la radicalité de Éric Zemmour, encore plus radicale que ne l'était Mme Le Pen, a aussi aidé à cela. Et deuxième chose, il est vrai que le fait qu'en France, notamment, Marine Le Pen soit très haut dans les sondages, que M. Zemmour ait médiatiquement fait beaucoup, beaucoup d'impressions sur le paysage médiatique, eh bien, ça permet aussi à ces groupuscules de se dire que la théorie du chaos qui veut qu'il faut accélérer l'imminence et l'arrivée d'une guerre raciale pour pouvoir encore la gagner, se joint également à l'idée que si Marine Le Pen devait venir à gagner les élections, eh bien, il y aurait une sorte d'amnistie pour tous les actes qui auraient été menés. Donc deux choses. D'abord, une théorie du chaos, qui est une théorie très ancienne selon laquelle il faut semer le chaos dans le pays pour que l'extrême droite puisse gagner aux élections. Et deuxième chose, semant le chaos et menant à la victoire de l'extrême droite potentiellement, par exemple en 2027, eh bien, il y aura une sorte d'amnistie de tous les gens qui auront mené des actes. Donc ces deux éléments peuvent en effet concourir à les pousser à faire des actes qu'auparavant ils ne faisaient pas aussi fortement et aussi nombreux.
Je vous remercie beaucoup Erwan Lecœur d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes sociologue, chercheur associé au laboratoire PACT de l'Université de Grenoble-Alpes. Merci beaucoup.
Je vous en prie, merci à vous.